Comme dans un livre, Marie-Christine Loubry. Dracula, de Bram Stoker. Roman traduit de l'anglais par Lucienne Molitor. Journal du Dr. Seward, 17 septembre. Après le dîner, j'étais dans mon bureau, occupée à mettre à jour le travail que j'avais laissé en souffrance, trop pris et par mes malades et par mes visites fréquentes à Lucie. Tout à coup, la porte s'ouvrit toute grande et Renfield, les traits convulsés de colère, se précipita vers moi. Je demeurais littéralement interdit, car ce n'est pas souvent qu'un malade, sans en demander la permission à personne, vienne trouver le médecin en chef dans son bureau. Il tenait en main un couteau, et je devinais aussitôt que dans sa fureur, il pouvait devenir dangereux. Je fis donc un mouvement de recul, de façon que la table pût nous séparer, chacun de nous étant placé de part et d'autre. Mais il me prévint, et avant que je puisse reprendre mon équilibre, il avait sauté sur moi et m'avait fait au poignet gauche une coupure assez grave. Toutefois, je ne lui laissai pas le temps de frapper une seconde fois, je l'envoyai à terre, allongé sur le dos. Mon poignet saignait abondamment, le sang formait une petite mare sur le tapis. Renfield, je m'en rendis compte immédiatement, ne méditait pas une nouvelle attaque. Aussi me mis-je à bander mon poignet, tout en regardant l'homme étendu par terre. Quand, avec les surveillants arrivés, nous nous penchâmes sur lui pour le relever et le reconduire dans sa chambre, il était occupé à une besogne qui me souleva le cœur. Retourné maintenant sur le ventre, à la manière d'un chien, il léchait le sang qui avait coulé de mon poignet. Mais je fus assez étonné de voir qu'il se laissait emmener sans difficulté, en répétant à tout moment « Le sang, c'est la vie, le sang, c'est la vie ». Je ne puis vraiment pas me permettre de perdre ce sang. Serait-ce même en petite quantité. J'en ai déjà perdu suffisamment ces derniers jours, d'autant plus que la maladie de Lucie, avec tout ce qu'elle exige d'endurance et d'effort de notre part, avec toute l'horreur qu'elle nous inspire à certains moments, devient vraiment éprouvante. Je n'en peux plus. Il me semble que je tomberai d'épuisement si je n'ai pas une nuit de repos. Oh, dormir. Dormir des heures. Heureusement, Van Helsing ne m'a pas fait appeler. Aussi, j'aurai ces heures de sommeil si nécessaires. Télégramme de Van Helsing, Anvers à Seward, Carfax. Envoyé à Carfax, Sussex, aucun nom de comté n'étant indiqué. Déposé après 22 heures. 17 septembre. Ne pas manquer vous rendre à Ellingham ce soir. Si pas veillé tout le temps, entrez souvent dans la chambre, voir si Fleur à leur place. Très important. Vous rejoindrez le plus tôt possible, une fois arrivé à Londres. Journal du docteur Seward. 18 septembre. Je vais prendre le train pour Londres. Le télégramme de Van Helsing m'a plongé dans la consternation. Une nuit entière de perdu, et je sais par expérience, hélas, ce qu'il peut arriver en une nuit. Évidemment, il est possible que tout se soit très bien passé. Mais d'autre part, que de choses ont pu se produire. Il faut assurément que quelques malédictions nous poursuivent, puisque nous devons nous attendre à voir contrarier chacun de nos efforts. J'emporte ce cylindre à Ellingham et je compléterai mon enregistrement sur le phonographe de Lucy. Mémorandum laissé par Lucy Westenra. 17 septembre, la nuit. J'écris ces lignes sur des feuilles détachées afin qu'on les trouve et les lise, car je veux que l'on sache exactement ce qui s'est passé cette nuit. Je vais mourir de faiblesse, je le sens. J'ai à peine la force d'écrire. Mais il faut que j'écrive ceci, même si la mort me surprend la plume à la main. Comme d'habitude, je me suis mise au lit en ayant soin de placer les fleurs autour de mon cou, comme le docteur Van Helsing me l'a ordonné, et je me suis endormie presque aussitôt. Mais j'ai été réveillée par ces battements d'ailes contre la fenêtre, que j'avais entendus pour la première fois après que, tout endormi, j'étais montée au sommet de la falaise de Whitby, où Mina m'a trouvée, et que j'ai entendue si souvent depuis lors. Je n'ai pas eu peur. Pourtant, j'aurais souhaité que le docteur Seward fût dans la chambre voisine, comme le docteur Van Helsing me l'avait donné à entendre, afin que je puisse l'appeler. J'ai essayé de me rendormir, mais n'y suis pas parvenue. Alors m'a reprise ma vieille crainte du sommeil, et j'ai décidé, au contraire, de rester éveillée. Chose étrange, tandis que j'essayais de le combattre, le sommeil peu à peu semblait devoir me gagner. Aussi, dans l'espoir de ne pas rester seule, j'ai ouvert ma porte et j'ai crié « Y a-t-il quelqu'un ?» Pas de réponse. Comme je ne voulais pas non plus éveiller maman, j'ai refermé ma porte. Alors, au dehors, venant, m'a-t-il semblé, des buissons, j'ai entendu un cri, comme si un chien hurlait. Mais c'était un cri bien plus effrayant. Je suis allée à la fenêtre, me suis penchée pour essayer de distinguer quelque chose dans l'obscurité, mais je n'ai rien vu sinon une grosse chauve-souris, celle-là même probablement qui était venue battre des ailes contre la vitre. Je me suis remise au lit, bien décidée encore à ne pas m'endormir. Un peu après, ma porte s'ouvrit et maman passa la tête dans l'entrebâillement. Voyant que je ne dormais pas, elle entra et vint s'asseoir près de mon lit. Elle, toujours si douce, me dit sur un ton encore plus doux, plus apaisant que d'habitude. Je me demandais si tu n'avais besoin de rien, ma chérie, et j'ai voulu venir m'en assurer. Pour qu'elle ne prît pas froid, je lui proposai de se coucher à côté de moi dans mon lit, ce qu'elle fit, tout en gardant son peignoir, car, me dit-elle, elle ne resterait qu'un moment, puis regagnerait son propre lit. Comme elle me tenait serrée dans ses bras, il y eut à nouveau ce bruit contre la fenêtre. Maman sursauta en s'écriant « Qu'est-ce que c'est ?» J'essayai de la rassurer et finalement y parvins. Elle se recoucha, tout à fait calme, mais j'entendais son cœur battre à grands coups. On entendit une fois encore hurler dans les buissons, puis quelque chose vint frapper contre la vitre qui se brisa. Les morceaux de verre s'éparpillèrent sur le plancher. Le vent souleva le store et dans l'ouverture faite par le carreau cassé, passa la tête d'un grand loup très maigre. Maman poussa à nouveau un cri d'effroi, se dressa sur le lit tout en se débattant et voulut saisir un objet quelconque pour nous défendre. C'est ainsi qu'elle arracha de mon cou la guirlande de fleurs d'ail, puis la jeta au milieu de la chambre. Pendant quelques instants, elle resta assise de la sorte, montrant le loup du doigt, puis elle retomba sur l'oreiller, comme frappée par la foudre, et sa tête vint cogner contre mon front. Une ou deux secondes, je restai étourdie. La chambre et tout autour de moi semblaient tourner, et pourtant je gardais les yeux fixés sur la fenêtre. Mais le loup disparut bientôt, et on eût dit que des petites taches, par myriades, entraient en tourbillon par la vitre cassée, des tourbillons qui rappelaient sans doute les colonnes de sable que le voyageur voit s'élever dans le désert quand souffle le simoun. J'essayais de m'asseoir sur le lit, mais en vain. Je ne sais quelle force mystérieuse m'en empêchait. Et du reste, le corps de ma pauvre maman, qui me semblait déjà si froid et était tombé sur moi, me rendait tout mouvement impossible. Puis je perdis connaissance. Je ne me souviens plus de ce qui s'est passé ensuite. Cet évanouissement ne dura pas longtemps, Mais ce furent, j'en eus très gravement conscience malgré tout, des minutes terribles. Quand je revins à moi, le glas sonnait dans les environs, des chiens hurlaient tout autour de la maison, et dans les arbres du jardin, non loin de ma fenêtre, me semblait-il, un rossignol chantait. Le chagrin, la peur, mon état de grande faiblesse, tout cela me laissait dans une sorte de torpeur. Toutefois, à entendre chanter ce rossignol, j'avais l'impression de retrouver la voix de ma pauvre maman, sa voix qui s'élevait dans la nuit pour me consoler. Sans doute ces différents bruits avaient-ils réveillé les servantes, car je les entendis alors qui marchaient pieds nus sur le palier. Je les appelai, elles entrèrent, et l'on devine leurs cris d'épouvante lorsqu'elles comprirent le malheur qui nous arrivait et virent le corps tendu au-dessus de moi qui restait couché sur le lit. Le vent, entrant dans la chambre par la fenêtre brisée, faisait claquer la porte à tout moment. Les braves filles soulevèrent le corps de ma chère maman pour me permettre de me lever, et puis doucement, avec mille précautions, l'étendirent convenablement sur le lit et le recouvrirent d'un drap. Voyant à quel point elles étaient impressionnées, je leur dis de descendre à la salle à manger et de boire un verre de vin. Elles ouvrirent la porte, qui se referma aussitôt sur elles. Je les entendis crier à nouveau, puis dégringoler en groupe l'escalier. Alors je disposai des fleurs sur la poitrine de maman, et à peine les y avais-je mises, je me souvins des recommandations du docteur Van Helsing, mais pour rien au monde, je n'aurais repris ces fleurs. D'ailleurs, j'attendais que les servantes reviennent près de moi. Nous resterions ensemble à veiller. Mais elles ne remontèrent pas. Je les appelais, pas de réponse. Alors je me décidai à descendre à mon tour dans la salle à manger. Je faillis me trouver mal devant le spectacle que j'avais sous les yeux. Toutes les quatre gisaient sur le plancher, respirant difficilement. La carafe de sherry, demi-vidée, était encore sur la table. Mais il y avait dans la pièce une odeur bizarre, âcre. J'examinai la carafe. Elle sentait le lot d'un homme. J'ouvris le buffet et je m'aperçus que le flacon dont le médecin de maman se servait, hélas, pour la soigner, était vide. Que vais-je faire maintenant? Que vais-je faire? Je suis revenue dans la chambre, auprès de maman. Je ne peux pas la quitter. Et je suis seule dans la maison, hormis ces pauvres filles en qui quelqu'un a fait prendre du laudanum. Seule avec la mort. Et je n'ose pas sortir, car par la fenêtre cassée, j'entends hurler le loup. Et toujours ces petites taches qui dansent dans la chambre et tourbillonnent à cause du courant d'air qui vient de la fenêtre. Et la lampe qui baisse maintenant, qui va bientôt s'éteindre. Que vais-je faire? Dieu veuille qu'il ne m'arrive rien de mal cette nuit. Je vais glisser ces feuilles dans mon corsage, afin qu'on les trouve quand on fera ma dernière toilette. Ma pauvre maman est partie. Il est temps que je m'en aille aussi. Je vous dis adieu, dès maintenant, mon cher Arthur, si je dois mourir cette nuit. Dieu vous garde, mon ami, et me vienne en aide. Chapitre 12. Journal du docteur Seward. 18 septembre. J'arrivais de bonne heure à Ellingham. Laissant la voiture à la grille de l'allée, je marchais jusqu'à la maison. Je sonnais très doucement, afin de n'éveiller ni Lucie ni Madame Westenra, si elle dormait encore. J'espérais que seule une servante m'entendrait. Un moment se passa, et comme personne ne venait m'ouvrir, je sonnai de nouveau, puis frappai assez fort. Toujours pas de réponse. J'en voulus au domestique qui restait au lit si tard. Il était maintenant près de 10 heures, de sorte que je sonnais et frappais encore à plusieurs reprises, avec plus d'impatience, mais toujours en vain. Jusqu'ici, j'avais rendu les servantes seules responsables de ce silence, mais maintenant, j'étais pris d'une terrible appréhension. Ce silence même, n'était-ce pas une nouvelle manifestation de cette malédiction qui semblait s'acharner contre nous? Voulais-je réellement pénétrer dans une maison où la mort était entrée avant moi? Je savais que chaque minute, chaque seconde qui s'écoulait pouvait être la cause de longues heures très dangereuses pour Lucie, si son état s'était une fois de plus aggravé. Aussi contournais-je la maison, espérant trouver une entrée que je ne connaissais pas encore. Toutes les portes étaient fermées à clé, toutes les fenêtres parfaitement closes, de sorte qu'il me fallut bien revenir sur mes pas. Au moment où j'arrivais devant la porte principale, j'entendis le trot rapide d'un cheval. La voiture, je m'en rendis compte, s'arrêta devant la grille. Et quelques secondes plus tard, je vis Van Helsing qui remontait l'allée en courant. Quand il m'aperçut, bien que tout essoufflé, il parvint à me dire « Ah, c'est vous! Vous venez donc d'arriver? Comment va-t-elle? Est-il encore temps? N'avez-vous pas reçu mon télégramme ?» Je lui répondis d'une façon aussi cohérente que je pus, que j'avais seulement reçu son télégramme aux premières heures de la matinée et que j'étais aussitôt venu ici. Mais j'avais beau sonner, j'avais beau frapper, personne ne me répondait. Il resta un moment silencieux, puis se découvrant, il reprit sur un ton grave « Je suppose donc que nous arrivons trop tard. Que la volonté de Dieu soit faite. » Puis, reprenant courage, comme en toute occasion, il ajouta « Venez, s'il n'y a ni porte ni fenêtre ouverte, nous trouverons tout de même bien le moyen d'entrer. » Avec lui, je retournai derrière la maison. Il prit sa petite scie de chirurgien et, me l'attendant, il me montra les barreaux de fer qui protégeaient la fenêtre d'une des cuisines. Je me mis aussitôt à les scier et trois d'entre eux ne tardèrent pas à céder. Ensuite, avec un long couteau mince, nous parvînmes à faire sauter l'espagnolette et à ouvrir la fenêtre. J'aidai le professeur à entrer dans la cuisine, puis j'entrai à mon tour. Là, il n'y avait personne, pas plus que dans l'office. Au rez-de-chaussée, nous visitâmes toutes les pièces, l'une après l'autre, et dans la salle à manger qui éclairait quelques raies de lumière passant à travers les volets, nous trouvâmes les quatre servantes étendues sur le plancher. L'idée ne nous vint pas un instant qu'elles pussent être mortes, car leur ronflement, d'une part, et de l'autre la forte odeur de laudanum répandue dans la pièce, ne laissait aucun doute quant à leur véritable état. Aussi, rassuré, Van Helsing me dit « Nous nous occuperons d'elles plus tard ». Et nous montâmes alors, sans perdre une seconde, à la chambre de Lucie. Cependant, à la porte, nous nous arrêtâmes pour écouter. Nous n'entendîmes pas le moindre bruit. C'est aussi pâle l'un que l'autre, et les mains tremblantes, que nous ouvrîmes la porte, très doucement. Comment décrire le spectacle qui s'offrit à nos yeux? Sur le lit étaient étendues Lucie et sa mère. Celle-ci, du côté le plus éloigné de la porte, était recouverte d'un drap blanc. Le bord du drap, relevé par le courant d'air, la vitre avait volé en éclats, laissait voir un visage blême et tiré, marqué par la frayeur. À côté d'elle, Lucie reposait, le visage encore plus tiré. La couronne de fleurs qu'elle portait autour du cou se trouvait maintenant sur la poitrine de Madame Westenra, et comme sa gorge était découverte, on voyait les deux petites blessures que nous avions déjà remarquées auparavant, mais devenues beaucoup plus vilaines. Sans un mot, le professeur se pencha sur le lit, sa tête touchant presque la poitrine de la pauvre Lucie. Puis, après avoir écouté très attentivement, mais seulement l'espace d'une seconde, il se redressa d'un mouvement brusque et me cria « Il n'est pas trop tard, vite, vite, du brandy !» Je descendis en hâte et allai prendre la bouteille dans la salle à manger, en ayant soin cependant de sentir et de goûter l'alcool, afin de m'assurer qu'on n'y avait pas ajouté du laudanum, comme on l'avait fait dans la carafe contenant le sherry. Les servantes continuaient à respirer, mais d'une façon plus paisible, plus régulière. Sans doute l'effet du laudanum se dissipait-il peu à peu. Toutefois, je n'attendis pas d'en avoir le cœur net et retournai immédiatement auprès de Van Helsing. Comme il l'avait déjà fait, il frotta avec le brandy les lèvres et les gencives de Lucie, ses poignets et les paumes de ses mains. Puis il me dit « Voilà, pour le moment, il n'y a rien d'autre à faire. Vous descendez et essayez d'éveiller ces filles. Frappez-leur le visage avec un linge mouillé et ne craignez pas d'y aller brutalement. Qu'elles allument un bon feu et préparent un bain chaud. Cette pauvre petite est presque aussi froide que le corps étendu auprès d'elle. Elle doit être réchauffée avant que nous puissions faire pour elle quoi que ce soit. » Ce fut sans grande difficulté que j'éveillai trois de ces filles, mais la quatrième était encore presque une enfant, de sorte que la drogue avait agi sur elle avec plus d'efficacité. Je l'étendis sur le sofa et la laissai dormir. Les autres restèrent bien encore un moment comme hébétées. Pourtant, au fur et à mesure qu'elles se souvenaient de ce qui s'était passé, elles se mirent à pleurer et même à sangloter, comme si elles avaient eu proprement un drame à me raconter. Mais je me montrai ferme et assez sévère. Je ne les laissais pas parler. Je leur dis qu'une morte dans la maison, c'était suffisant, et que si elles perdaient ne fût-ce que quelques moments à bavarder, c'était maintenant Mademoiselle Lucie qui allait mourir. Toujours en sanglotant et à moitié habillées, elles allèrent à la cuisine. Par bonheur, le fourneau n'était pas éteint, le réservoir était rempli, nous ne manquerions pas d'eau chaude. Le bain préparé, nous transportâmes Lucie et la plongeâmes dans l'eau. Nous étions en train de lui frictionner les bras et les jambes quand on frappa à la porte d'entrée. L'une des servantes se précipita dans sa chambre pour s'habiller un peu plus décemment, puis redescendit ouvrir. Elle vint nous avertir alors qu'un monsieur était là avec un message de la part de Monsieur Holmwood. Comme nous ne pouvions recevoir personne en ce moment, je la priai de faire attendre ce visiteur. J'avoue que j'oubliais bientôt sa présence, tout occupée que j'étais de notre malade. Depuis que je travaillais avec lui, je n'avais jamais vu le professeur lutter de cette façon contre la mort. Car nous le savions tous les deux, c'était bien de cela qu'il s'agissait, d'un combat à toute extrémité contre la mort. C'est ce que je lui glissais à l'oreille, alors qu'il se redressait l'espace d'un instant. Je ne saisis pas très bien la réponse qu'il me fit, mais la gravité de son visage me frappa. « Si ce n'était que cela, » dit-il. « J'abandonnerai ici tout effort et je la laisserai reposer en paix, car je ne vois pas bien ce que la vie pourrait lui apporter encore. » Cependant, en redoublant d'ardeur et d'obstination, il continua à tenter de ranimer Lucie. Et bientôt, nous nous aperçûmes que l'eau chaude commençait à faire quelque effet. Au moyen du stéthoscope, on entendait de nouveau le cœur battre et le souffle des poumons redevenait perceptible. Tandis que nous sortions la jeune fille du bain et l'enveloppions dans un drap chaud, Van Helsing me dit, le visage presque rayonnant, « Nous avons gagné la première manche, échec au roi. » Nous installâmes Lucie dans une autre chambre. Une fois qu'elle fut mise au lit, nous lui versâmes dans la bouche quelques gouttes de brandy. Puis Van Helsing lui lia autour du cou un mouchoir de soie très douce. Elle n'avait pas encore repris connaissance, et elle paraissait être plus mal, je crois, que nous ne l'avions jamais vue. Ayant appelé une des servantes, le professeur lui ordonna de rester au chevet de sa jeune maîtresse, de ne pas la quitter des yeux, jusqu'à ce que nous fussions de retour. Puis il me fit signe de sortir avec lui de la chambre. « Nous devons réfléchir maintenant à ce qu'il nous faut faire, » me dit-il comme nous descendions l'escalier. Nous entrâmes dans la salle à manger, dont il referma soigneusement la porte derrière lui. On avait ouvert les volets, mais les stores étaient déjà baissés, selon cette coutume que les Anglaises des classes inférieures observent toujours étroitement. La pièce était donc obscure, mais cette pénombre nous suffisait. La gravité, peinte sur les traits de Van Helsing, avait plutôt fait place à présent à la perplexité. De toute évidence, il cherchait à résoudre une nouvelle difficulté. « Eh bien, oui, que faire ? » reprit-il. « Qui nous aidera ? Il faut absolument une autre transfusion de sang. Oui, encore une. Et cela le plus vite possible, ou la pauvre enfant ne vivra pas une heure de plus. Vous, mon ami, vous êtes épuisé, comme moi d'ailleurs. Et je crains de faire subir cette épreuve à l'une ou l'autre de ces femmes, quand bien même elle aurait le courage de s'y soumettre. Ou trouver quelqu'un qui voudrait lui donner un peu de son sang. » « Je ne suis pas ici, non ? La voix venait du sofa, à l'autre bout de la pièce, et je sentis aussitôt un profond soulagement, car je ne pouvais pas m'y tromper. C'était la voix de Quincy Morris. Van Helsing eut d'abord un mouvement de colère, mais ses traits s'adoucirent bientôt, et une lueur de joie brilla dans ses yeux, tandis que, me précipitant vers mon ami, les mains tendues, je m'écriai « Quincy Morris, qu'est-ce qui vous amène ici ?» Arthur vous a sans doute... Pour toute réponse, il me tendit un télégramme. Je lus. Pas de nouvelles de Seward depuis 3 jours. Terriblement inquiet. Impossible de quitter père. Toujours aussi mal. Écrivez-moi sans tarder comment va Lucy. Homewood. Je pense que j'arrive à point nommé, dit-il alors. Vous savez, n'est-ce pas, que vous n'avez qu'à m'indiquer ce que je dois faire. Van Helsing s'approcha de Maurice à son tour, lui serra la main et, le regardant dans les yeux, déclara « Quand une femme épuisée a besoin de sang, celui d'un homme courageux est la seule chose qui puisse la sauver. Le diable peut user de tout son pouvoir contre nous, mais Dieu, en voici une nouvelle preuve, nous envoie toujours les hommes dont nous avons besoin. » Et de nouveau, nous procédâmes à la transfusion de sang. Ce fut si pénible que je ne me sens pas le courage d'en donner les détails. Lucy avait dû recevoir un choc terrible, dont elle se ressentait bien plus que les fois précédentes, car elle ne réagit plus de la même façon. La voir, l'entendre au cours de la lutte qu'elle soutint pour revenir à la vie, était quasi insupportable. Pourtant, peu à peu, le cœur battit plus régulièrement, la respiration s'améliora, et Van Helsing eut encore recours à une injection de morphine, ce qui eut pour effet de transformer l'état d'évanouissement en un sommeil profond. Le professeur resta à veiller Lucy pendant que je descendais avec Quincy Morris et envoyait une des servantes payer le cocher du fiacre qui attendait à la grille. Après lui avoir donné un verre de vin, je fis étendre Quincy sur le sofa et je dis à la cuisinière de lui préparer un déjeuner substantiel. Puis, une idée me venant à l'esprit, je retournai aussitôt dans la chambre de la malade. Je trouvai Van Helsing tenant en main 2 ou 3 feuillets de papier. Je vis tout de suite qu'il les avait déjà lus et qu'il réfléchissait sur ce qu'il venait d'apprendre. S'il avait l'air sombre, une certaine satisfaction ne se lisait pas moins sur son visage, comme si, pour lui, un doute venait de s'éclaircir. Il me tendit les feuillets en me disant seulement « C'est tombé du corsage de Lucy quand nous l'avons soulevée pour la baigner. »